Chapitre 2. La nuit du Capitole. Les voyageurs s'étaient installés dans une osteria du Campo dei Fiori, à l'heure où les marchandes criardes soldaient leurs bottes de rose et débarrassaient la place du tapis multicolore et embaumé de leurs éventaires. À la nuit tombante, ayant pris l'aubergiste pour guide, Giannino Baglioni se rendit au Capitole. L'admirable ville que Rome, où il n'était jamais venu et qu'il découvrait en regrettant de ne pouvoir à chaque pas s'arrêter. Immense en comparaison de Sienne et de Florence, plus grande même, semblait-il, que Paris ou que Naples, si Giannino se référait au récit de son père. Le dédale de ruelles s'ouvrait sur des palais merveilleux, brusquement surgis, et dont les porches et les cours étaient éclairés de torches ou de lanternes. Des groupes de garçons chantaient, se tenant par le bras en travers des rues. On se bousculait, mais sans mauvaise humeur. On souriait aux étrangers. Les tavernes étaient nombreuses, d'où sortaient de bons parfums d'huile chaude, de safran, de poissons frits et de viande rôtie. La vie ne semblait pas s'arrêter avec la nuit. Giannino monta la colline du Capitole à la lueur des étoiles. L'herbe croissait devant un porche d'église. Des colonnes renversées, une statue dressant un bras mutilé, attestaient l'antiquité de la cité. Auguste, Néron, Titus, Marc Aurèle avaient foulé ce sol. Colla de Rienzi soupait en nombreuse compagnie dans une vaste salle construite sur les assises mêmes du temple de Jupiter. Giannino vint à lui, mit un genou en terre et se nomma. Aussitôt le tribun, lui prenant les mains, le releva et le fit conduire dans une pièce voisine où, après peu d'instants, il le rejoignit. Rienzi s'était choisi le titre de tribun, mais il avait plutôt le masque et le port d'un empereur. La pourpre était sa couleur. Il drapait son manteau comme une toge. Le col de sa robe cernait un cou large et rond. Le visage massif, avec de gros yeux clairs, des cheveux courts, un menton volontaire, semblait destiné à prendre place à la suite des bustes des Césars. Le tribun avait un tic léger, un frémissement de la narine droite qui lui donnait une expression d'impatience. Le pas était autoritaire. Cet homme-là montrait bien, rien qu'en paraissant, qu'il était né pour commander, avait de grandes vues pour son peuple et qu'il fallait se hâter de comprendre ses pensées et de s'y conformer. Il fit asseoir Giannino auprès de lui, ordonna à ses serviteurs de fermer les portes et de veiller à ce qu'on ne le dérangeât point. Puis, tout aussitôt, il commença de poser des questions qui ne concernaient en rien les affaires de banque. Le commerce des laines, les prêts d'argent, les lettres de change ne constituaient pas son souci. C'était Giannino uniquement, la personne de Giannino qui l'intéressait. À quel âge Giannino était-il arrivé de France? Où avait-il passé ses premières années? Qui l'avait élevé? Avait-il toujours porté le même nom? Après chaque demande, Rienzi attendait la réponse, écoutait, hochait le menton, interrogeait de nouveau. Donc, Giannino avait vu le jour dans un couvent de Paris. Sa mère, Marie de Cressel, l'avait élevé jusqu'à l'âge de 9 ans en Île-de-France, près d'un bourg nommé Naufle-le-Vieux. Que savait-il d'un séjour qu'aurait fait sa mère à la cour de France? Le Siennois se rappelait les propos de son père, Guccio Baglioni, à ce sujet. Marie de Cressel, peu après avoir accouché de Giannino, avait été appelée à la cour comme nourrice pour le fils nouveau-né de la reine Clémence de Hongrie. Mais elle y était peu restée, puisque l'enfant de la reine était mort au bout de quelques jours. « Empoisonné, disait-on. » Et Giannino se mit à sourire. Il avait été frère de lait d'un roi de France. C'était chose à laquelle il ne songeait presque jamais et qui lui paraissait soudain incroyable, presque risible, lorsqu'il se contemplait, tout près d'atteindre 40 ans, dans sa tranquille existence de bourgeois italien. Mais pourquoi Rienzi lui posait-il toutes ces questions? Pourquoi le tribun aux gros yeux clairs, le bâtard de l'avant-dernier empereur, l'observait-il avec cette attention réfléchie? « C'est bien vous !» dit enfin Colla de Rienzi. « C'est bien vous !» Giannino ne comprenait pas ce qu'il entendait par là. Il fut encore plus surpris quand il vit l'imposant tribun mettre un genou en terre et s'incliner jusqu'à lui baiser le pied droit. « Vous êtes le roi de France !» déclara Rienzi. « Et c'est ainsi que tout le monde doit vous traiter désormais !» Les lumières vacillèrent un peu autour de Giannino. Quand la maison où l'on se tient paisiblement à dîner se fissure soudain parce que le sol est en train de glisser, quand le bateau sur lequel on dort vient en pleine nuit éclater contre un récif, On ne comprend pas non plus dans le premier instant ce qui arrive. Giannino Baglioni était assis dans une chambre du Capitole. Le maître de Rome s'agenouillait à ses pieds et lui affirmait qu'il était roi de France. « Il y a eu 9 ans, au mois de juin, la dame Marie de Crécy est morte. »«
Ma mère est morte ?»
s'écria Giannino.
« Oui, mon grandissime seigneur, celle plutôt que vous croyez votre mère, et l'avant-veille de mourir, elle s'est confessée. »
C'était la première fois que Giannino s'entendait appeler « grandissime seigneur », et il en demeura bouche bée, plus stupéfait encore que du baisse-pied. Donc, se sentant proche de trépasser, Marie de Crécy avait appelé auprès de son lit un moine augustin d'un couvent voisin, frère Jourdain d'Espagne, et elle s'était confessée à lui. L'esprit de Giannino remontait vers ses premiers souvenirs. Il voyait la chambre de Crécy et sa mère, blonde et belle. Elle était morte depuis 9 ans et il ne le savait pas. Et voilà qu'à présent, elle n'était plus sa mère. Frère Jourdain, à la demande de la mourante, avait consigné par écrit cette confession qui constituait la révélation d'un extraordinaire secret d'État et d'un non moins extraordinaire crime. « Je vous montrerai la confession ainsi que la lettre de frère Jourdain. Tout cela est en ma possession, » dit Cola de Rienzi. Le tribun parla pendant 4 heures pleines. Il n'en fallait pas moins, et d'abord pour instruire Giannino d'événements vieux de 40 ans qui faisaient partie de l'histoire du royaume de France. La mort de Marguerite de Bourgogne, le remariage du roi Louis X avec Clémence de Hongrie. Mon père avait été de l'ambassade qui alla chercher la reine à Naples. Il me l'a plusieurs fois raconté, dit Giannino. Il faisait partie de la suite d'un certain comte de Bouville.
Le comte de Bouville, dites-vous? Tout se confirme bien. C'est ce même Bouville qui était curateur au ventre de la reine Clémence, votre mère, noblissime seigneur, et qui alla faire prendre, pour vous nourrir, la dame de Crécy au couvent où elle venait d'accoucher. Elle a raconté cela précisément.
À mesure que le tribun parlait, son visiteur se sentait perdre la raison. Tout était retourné. Les ombres devenaient claires, le jour devenait noir. Giannino obligeait souvent Rienzi à revenir en arrière, comme lorsqu'on reprend une opération de calcul trop compliquée. Il apprenait d'un seul coup que son père n'était pas son père, que sa mère n'était pas sa mère, et que son père véritable, un roi de France, assassin d'une première épouse, avait fini lui-même assassiné. Il cessait d'être le frère de lait d'un roi de France mort au berceau. Il était ce roi même soudain ressuscité.
On vous a toujours appelé Jean, n'est-ce pas? La reine, votre mère, vous avait donné ce nom à cause d'un vœu. Jean ou Giovanni, qui fait Giovannino ou Giannino. Vous êtes Jean Ier, le posthume.
Le posthume. Une appellation sinistre, un de ces mots qui évoquent le cimetière, et que les Toscans n'entendent pas sans faire les cornes avec leur main gauche. Brusquement, le comte Robert d'Artois, la comtesse Mao, ces noms qui appartenaient au grand souvenir de son père, non, pas son père, enfin l'autre, Guccio Baglioni, surgissaient dans le récit du tribun, chargés de rôles terribles. La comtesse Mao, qui avait déjà empoisonné le père de Giannino, oui, le roi Louis, avait entrepris de faire périr également le nouveau-né. Mais le comte de Bouville, prudent, avait échangé l'enfant de la reine avec celui de la nourrice, qui d'ailleurs s'appelait Jean également. C'est ce dernier qui a été tué et enterré à Saint-Denis. Et Giannino éprouva comme une sensation d'épaississement de son malaise, parce qu'il ne pouvait se déshabituer si vite d'être Giannino Baglioni, l'enfant du marchand siennois, et que c'était comme si on lui annonçait qu'il avait cessé de respirer à l'âge de 5 jours, et que sa vie depuis, toutes ses pensées, tous ses actes, son corps même, n'était qu'illusion. Il se sentait s'évanouir, s'emplir d'ombre, se muer en son propre fantôme. Où se trouvait-il vraiment ? Sous une dalle de Saint-Denis, ou bien ici, au Capitole.
Elle m'appelait parfois « mon petit prince », murmura-t-il.
Qui cela ?
Ma mère, je veux dire, la dame de Crécy, quand nous étions seuls. Je croyais que c'était un mot comme les mères de France en donnent à leurs enfants, et elle me baisait les mains et elle se mettait à pleurer. Que de choses me reviennent. Et cette pension qu'envoyait le comte de Bouville et qui faisait que les oncles Crécy, le barbu et l'autre, étaient plus gentils avec moi les jours où la bourse arrivait. Qu'étaient devenus tous ces gens? Ils étaient morts pour la plupart et depuis longtemps. Mao, Bouville, Robert d'Artois,
Les frères Crécet avaient été armés chevaliers la veille de la bataille de Crécy, sur un jeu de mots du roi Philippe VI. Ils devaient être déjà assez vieux. Mais alors, si Marie de Crécet n'avait jamais voulu revoir Guccio Baglioni, ce n'était pas qu'elle le détestât, comme celui-ci le prétendait amèrement, mais pour garder le serment qu'on lui avait fait prononcer par force en lui remettant le petit roi sauvé. Par crainte de représailles également, sur elle-même ou sur son mari, expliqua Cola de Rienzi. Car ils étaient mariés, secrètement mais réellement, par un moine. Cela aussi, elle l'a dit dans sa confession. Et un jour, Baglioni est venu vous enlever, quand vous aviez 9 ans. Je me souviens bien de ce départ. Et elle, la dame de Crécet, elle ne s'est jamais remariée. Jamais, puisqu'elle avait contracté union. Lui non plus ne s'est pas remarié. Giannino resta songeur un moment, s'entraînant à penser à la morte de Crécet, aux morts de Campagny, comme à des parents d'adoption. Puis, soudain, il demanda « Pourrais-je avoir un miroir ?»« Certes, » dit le tribun avec une légère surprise. Il frappa dans ses mains et donna un ordre à un serviteur. « J'ai vu la reine Clémence une fois, précisément quand je fus emmené de Crécet et que je passais quelques jours à Paris chez l'oncle Spinello. Mon père, adoptif, ainsi que vous dites, me conduisit la saluer. Elle m'a donné des dragées. Alors, c'était elle, ma mère ?» Les larmes lui montaient aux yeux. Il glissa la main sous le col de sa robe, sortit un petit reliquaire pendu à une cordelette de soie. Cette relique de Saint-Jean venait d'elle. Il cherchait désespérément à retrouver les traits exacts du visage de la reine, pour autant qu'ils se fussent inscrits dans sa mémoire d'enfant. Il se rappelait seulement l'apparition d'une femme merveilleusement belle, tout en blanc dans le costume des reines veuves, et qui lui avait posé sur le front une main distraite et rose. Et je n'ai pas su que j'étais devant ma mère. Et elle, jusqu'à son dernier jour, a cru son fils mort. Ah, cette comtesse Mao était une bien grande criminelle, pour avoir non seulement assassiné un innocent nouveau-né, mais encore jeté dans tant d'existences le désarroi et le malheur. L'impression d'irréalité de sa personne avait à présent disparu chez Giannino, pour faire place à une sensation de dédoublement tout aussi angoissante. Il était lui-même et un autre, le fils du banquier siennois et le fils du roi de France. Et sa femme, Francesca, il y pensa soudain. Qui avait-elle épousé? Et ses propres enfants? Alors il descendait de Hugues Capet, de Saint-Louis, de Philippe le Bel. Le pape Jean XXII devait avoir eu vent de cette affaire, reprit Cola de Rienzi. On m'a rapporté que certains cardinaux dans son entourage chuchotaient qu'ils doutaient que le fils du roi Louis X fût mort. Simple présomption, pensait-on, comme il en court tellement et qui ne paraissait guère fondée, jusqu'à cette confession in extremis de votre mère adoptive, votre nourrice, qui fit promettre au moine Augustin de vous rechercher et vous apprendre la vérité. Toute sa vie, elle avait, par son silence, obéi aux ordres des hommes. Mais à l'instant de paraître devant Dieu, et comme ceux qui lui avaient imposé ce silence étaient décédés sans l'avoir relevé du serment, elle voulut se délivrer de son secret. Et frère Jourdain d'Espagne, fidèle à la promesse donnée, s'était mis à la recherche de Giannino. Mais la guerre et la peste l'avaient empêché d'aller plus loin que Paris. Les Ptolémées n'y tenaient plus comptoir. Frère Jourdain ne se sentait plus en âge d'entreprendre de longs voyages. Il remit donc confession et récit, reprit Rienzi, à un autre religieux de son ordre, le frère Antoine, homme d'une grande sainteté qui a accompli plusieurs fois le pèlerinage de Rome et qui m'était venu visiter précédemment. C'est ce frère Antoine qui, voici 2 mois, se trouvant malade à Porto Venere, m'a laissé connaître tout ce que je viens de vous apprendre, en m'envoyant les pièces et son propre récit. J'ai un moment hésité, je vous l'avoue, à croire toutes ces choses, mais à la réflexion, elles m'ont paru trop extraordinaires et fantastiques pour avoir été inventées. L'imagination humaine ne saurait aller jusque-là. C'est la vérité souvent qui nous surprend. J'ai fait contrôler les dates, recueillir divers indices et envoyer à votre recherche. Je vous ai d'abord adressé ces émissaires qui, faute d'être porteurs d'un écrit, n'ont pu vous convaincre de venir à moi. Et enfin, je vous ai mandé cette lettre grâce à laquelle, mon grandissime seigneur, vous vous trouvez ici.
Si vous voulez faire valoir vos droits à la couronne de France, je suis prêt à vous y aider. »
On venait d'apporter un miroir d'argent. Giannino l'approcha des grands candélabres et s'y regarda longuement. Il n'avait jamais aimé son visage. Cette rondeur un peu molle, ce nez droit mais sans caractère, ses yeux bleus sous des sourcils trop pâles, était-ce là le visage d'un roi de France ? Giannino cherchait dans le fond du miroir à dissiper le fantôme, à se reconstituer. Le tribun lui posa la main sur l'épaule. « Ma naissance aussi, dit-il gravement, fut longtemps entourée d'un bien singulier mystère. J'ai grandi dans une taverne de cette ville. J'y ai servi le vin au portefeuille. Je n'ai su qu'assez tard de qui j'étais le fils. » Son beau masque d'empereur, où seule la narine droite frémissait, s'était un peu affaissé.